assez petit, il peut causer beaucoup de dégâts si, par exemple, il se trouve dans les trompes. Entre 12 et 14 semaines, il est établi que les fonctions vitales du fœtus sont en cours. Donc, une personne qui décide, qui a l'opportunité, mais qui décide de ne pas avoir une échographie, peut manquer l'information de savoir que tout ne se passe pas comme il se faut dans l'utérus. Et entre 18 et 24 semaines, il faut voir s'il y a des déchets, peut-être la maman peut prendre un traitement qui peut empêcher que certaines choses qui ne sont pas en train de bien se former s'arrangent. Donc, manquer de se faire suivre par échographie comporte des risques.
Merci. Il y a eu des cas où l'échographie a montré un sexe masculin, mais le bébé est né de sexe féminin. C'est ce qui a poussé Médard du Rocher-Beaupé à se demander pourquoi l'échographie ne donne pas une réponse exacte en ce qui concerne le sexe de l'enfant.
Bon, en général, il répond à la question du genre de bébé de façon certaine. Donc, l'incertitude ici provient de l'inaptitude du technicien à visualiser les parties génitales du fœtus. Si celui-ci se présente d'une façon peu favorable à l'examen. Donc, généralement, si le technicien n'arrive pas à déterminer le sexe du bébé, une autre visite est prise pour pouvoir donner un autre coup d'essai.
Et Abdoulaye Sankara, lui, il veut savoir si l'échographie définit tout de suite l'auteur de la grossesse à l'issue d'un doute.
Malheureusement, à cette question-là, l'échographie ne peut pas définir la paternité du fœtus parce que ce n'est pas un examen sanguin.
Alors, la question de Nervi Nerva rejoint un peu celle que Médard du Rocher-Beaupé a posée tout à l'heure concernant pourquoi des fois les résultats de l'échographie ne s'avèrent pas, sont différents de la réalité à la naissance de l'enfant.
Bien, nous le savons, toute science a des limites. Donc, du fait que l'interprétation de l'échographie provient de l'observation déduite de la réaction des cellules corporelles par rapport au sang. Cela veut dire que plusieurs facteurs affectent le comportement du sang qui traverse le moment du bébé. Donc, de ce fait, certains diagnostics ne peuvent être confirmés qu'à la naissance du bébé après l'observation directe, lorsque c'est possible.
Tchatch Konaté s'attendait à des jumelles après 3 échos. Il dit que c'est au dernier que son rêve tombe à l'eau. L'échographie révèle un enfant, une fille. Seulement, le sexe était vrai, mais il voudrait savoir pourquoi ces erreurs, lui qui s'attendait à des jumelles, et voilà qu'il se retrouve avec une seule fille.
Il y a plusieurs explications à ce phénomène. Si nous avions l'âge exact à laquelle les échographies ont été faites, la réponse aurait été plus axée sur son cas précis. Mais en général, les jumeaux peuvent être conçus au départ, mais l'un ne progresse pas. Cela s'appelle généralement le jumeau qui disparaît. Donc, quand cela arrive pendant les premières semaines, le premier trimestre, le jumeau qui n'a pas survécu est réabsorbé de sorte qu'il n'y a plus de traces. Donc, après confirmation d'une grossesse multiple en cours, il y a des chances que cette grossesse devienne une grossesse unique. Et si on n'est pas suivi par une échographie après la première ou la deuxième qui se fait généralement au premier trimestre.
Et Alphonse Boaki demande si le bébé prématuré est découvert à l'échographie. Lui, c'est depuis la RDC qui nous écrit.
Le bébé prématuré est celui qui est né avant l'âge terme qui est 37 semaines de grossesse, soit 8 mois et demi. Donc, de façon technique, l'échographie ne détermine pas la prématurité du bébé, mais plutôt l'âge en semaine de naissance.
Damas Moussaou Ndombe a laissé 3 séries de questions sur notre page Facebook de VO Afrique. Dans la première question, il dit « Madame, l'échographie en tant qu'examen est obligatoire chez nous ici, dans les grandes villes et aussi dans les grands centres, dotés des experts. Mais l'on constate que lors de la naissance, les nouveaux-nés sont parfois infirmes, soit il y a des problèmes graves qui mettent en danger la vie des enfants ou de leur mère. À quoi cela est-il dû?
Ça, c'est une très bonne question. L'échographie est un outil de diagnostic. Donc, un échographe est un technicien. Et la technologie et la technique déterminent le degré de compétence et le pourcentage de résultats positifs. Donc, cela veut dire entre les capacités de la personne qui fait l'examen et la performance de la machine, ces deux facteurs déterminent le résultat. Il y a aussi l'équipe médicale, parce que l'échographe, dans sa profession, n'est pas censé y travailler tout seul. Il doit avoir le soutien du radiologue ou de l'obstétricien spécialisé en grossesse difficile, qui, l'un des deux, doit être la deuxième paire d'yeux. Donc, pour affirmer ou questionner ou mettre un peu plus d'informations sur ce que l'échographe a déterminé. Cela étant dit, il arrive que des décès soient manqués, surtout si la grossesse ne bénéficie que d'un seul examen. Ou encore, certains décès ne se signalent que plus tard, pendant le troisième trimestre. Il y a des décès, par exemple, cardio, qui ne peuvent vraiment se déterminer que lorsque le bébé a atteint 30 semaines, 32 semaines. Mais généralement, la plupart des fœtus sont examinés entre 18 et 24 semaines.
La deuxième question de Moussa Ndombe, c'est celle, je pense que c'est la question que, l'une des questions que la plupart de nos auditeurs ont posées. Alors, voilà, il s'inquiète du fait que le mensonge de l'échographie laisse en désespoir les femmes. Dans le cas où, quand la femme se rend à son échographie, on lui dit que c'est un garçon, alors qu'à la naissance, elle met au monde peut-être des jumelles. Alors, il veut savoir si, à ce moment-là, il faut blâmer les échographes ou ce sont les appareils qu'on utilise qui sont douteux?
Bon, un peu des deux. Avec l'avancée de la technologie, ce genre de cas sont de moins en moins courants. Et il faut aussi mentionner que les échographes ont des limites et c'est à chacun d'être honnête et d'admettre lorsque, à la suite des forces soutenues, l'examen ne peut pas être conclu de façon satisfaisante. Donc, si un échographe a un code d'éthique de travail honnête, il pourra reconnaître « j'ai pas pu déterminer le sexe du bébé » au lieu de deviner ici est l'ennemi de l'échographe. On doit se baser sur les faits et sur ce qu'on voit. Donc, il est important que l'échographe soit honnête et aussi ça dépend des appareils que nous utilisons.
Selon Moussa Ndombe, nos grands-parents ne savaient pas tout ceci, ne connaissaient pas l'échographie et les risques de décès, certainement à la naissance, étaient moins importants. Alors que maintenant, il y a beaucoup de cas de décès pendant l'accouchement, tant pour le bébé que pour la maman. À quoi cela est-il dû?
Bon, je dirais que ce résumé ne reflète pas vraiment l'histoire réelle. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts pour le montrer clairement. Mais l'amélioration des soins prénataux, donc l'échographie, en fait partie, contribue à ce qu'il y ait moins de mortalité périnatale, tant pour la maman que le bébé. Les histoires que maintenant nous entendons beaucoup parler de ces cas, et peut-être dans le passé, nous n'en entendions pas parler beaucoup, mais c'est l'une des luttes qui est mise en avant dans le domaine de l'obstétrique, c'est de diminuer la mortalité autour de la grossesse, que ce soit pour la maman, pour le bébé, et aussi de lutter pour que les bébés soient, avant la naissance, soient pris en compte encore plus pour éviter justement ce genre de catastrophe qui arrivait très souvent dans le passé.
D'après Alphonse Mbouaki, aujourd'hui, on assiste fréquemment à des hémorragies pendant les accouchements, alors que dans les villages, dans le passé, les mamans accouchaient sans avoir, sans hémorragie, elles ne connaissaient pas ces problèmes d'hémorragie, ce qui diminuait les décès de la maman ou du bébé à la naissance. Comment expliquer cela?
Bon, encore, c'est à peu près la question précédente. La périmortalité a été la raison de chasse aux sorcières pour nos mamans. Et aujourd'hui encore, celles qui n'ont pas de soins, qui n'ont pas accès à la médecine moderne, en paient le prix. En prenant l'exemple cité, l'hémorragie postpartum, c'est-à-dire l'hémorragie après l'accouchement, l'une des raisons peut être simplement que le placenta recouvre le col. Et le col, c'est la partie de l'utérus qui s'ouvre pour que le bébé puisse sortir de l'utérus. Alors, si le placenta recouvre le col, que ce soit un bout ou toute une partie du placenta, sachant que le placenta, ce sont des vaisseaux sanguins, cela cause une hémorragie. C'est un diagnostic qui est très simple et qui se fait très facilement. Lorsque la maman a reçu une échographie pendant le deuxième semestre, entre 18 et 24 semaines, et si, lorsque cela a été découvert en ce moment-là, la maman a un suivi qui permet qu'à 32 semaines, cela soit encore évalué pour voir si ça a été résolu ou pas. Si ce n'est pas résolu à l'approche de la 36e semaine, la maman aura encore une échographie. Et s'il est montré que le placenta n'a pas bougé, la maman devra être accouchée par voie césarienne, et cela avant qu'elle ne finisse la 37e semaine, pour diminuer justement le risque d'hémorragie pendant l'accouchement.
Alors, dans la dernière série de nos questions, nos auditeurs veulent savoir ce qu'on peut voir à l'échographie à 3 semaines de grossesse.
3 semaines de grossesse, généralement, il n'y a rien à l'échographie. Le plus tôt qu'on peut voir quelque chose, le sac embryonnaire dans l'utérus, c'est à partir de 5 semaines de grossesse. Et c'est là où on voit le sac embryonnaire et le sac de Vitelline.
Et à partir de quand peut-on voir l'embryon dans la cavité utérine?
Dans la cavité utérine, entre 6 et 7 semaines, c'est généralement au début de la 6e semaine, l'embryon est visible dans la cavité utérine.
Et à partir de quel stade peut-on entendre le cœur de l'embryon?
Le cœur de l'embryon s'entend entre 6 et 7 semaines. Cela commence doucement entre 70 et 80. Et par la fin de la 7e semaine, peut arriver jusqu'à 180.
Et à quel moment peut-on reconnaître le sexe de l'enfant à naître?
Généralement, cela dépend de la maman, du corps, la façon dont le sang traverse la maman. Cela peut être vu à 13 semaines, mais généralement, pour être sûr, c'est conseillé de déterminer le sexe de l'enfant entre 18 et 24 semaines pendant l'anatomie complète du bébé.
Merci beaucoup. Pour terminer notre émission, Madame Sabrina Ngwe, quel conseil pouvez-vous donner aux femmes qui négligent l'échographie et même... Bon, d'abord, est-ce que l'échographie, c'est juste une affaire de la mère ou le père peut aussi faire quelque chose?
Bien sûr, l'échographie, c'est une expérience familiale. C'est vrai, c'est un examen médical. On ne doit pas prendre cela vraiment à la légère parce que certains pensent que c'est juste comme une balade. C'est un examen médical, mais c'est un examen médical qui peut se faire en famille. Ça aide aussi le papa à voir ce qui se passe, à être inclus dans la progression de la grossesse. Donc, les papas devraient se sentir à l'aise et la maman devrait se sentir à l'aise d'être assistée par le papa pendant qu'elle se fait faire une échographie.
Merci. Et donc, quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui continuent de négliger les échographies ou bien qui ne s'intéressent même pas à faire l'échographie pendant qu'elles sont enceintes?
Je dirais que peut-être c'est par ignorance des bienfaits que l'échographie pourrait apporter. Dans ma profession, cela fait un peu plus de 10 ans que je me suis concentrée à l'échographie prénatale et je vous assure, ce qu'on voit peut être époustouflant. Donc, cela apporte un élément de diagnostic, soit rassurant ou de prévoyance pour les parents. Donc, prenez cela au sérieux. C'est tout comme un check-up qu'on vous demanderait de faire sur vous-même. Donc, un homme averti en vaut mieux.
Merci beaucoup, madame. Nous vous remercions d'avoir été l'invitée de cette émission. Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Le plaisir est le mien. Merci.
Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique.
Vous venez de suivre l'entretien que nous a accordé madame Sabrina Ngwe sur l'échographie. À présent, c'est le moment de suivre Carnet de santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur l'hygiène intime. Et comment garder une bonne hygiène intime? Nous suivrons les conseils d'un expert. Ensuite, selon l'UNICEF, les enfants sont laissés pour compte dans la lutte contre le VIH-SIDA. Enfin, au Sénégal, une survivante du cancer se tourne vers l'impression 3D pour aider les amputés. C'est dans cette édition de Carnet de santé.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. L'hygiène intime est l'affaire de tous. Pour femme ou homme, garder sa partie intime propre est un geste de confort au quotidien. Outre la sensation de confort, l'hygiène intime joue un rôle majeur dans la prévention des infections et de certaines pathologies. Pour certaines personnes, une simple douche suffit pour l'hygiène personnelle et se sentir bien. D'autres, cependant, recherchent des moyens uniques et des produits spécialisés. Il existe pour cela une large gamme de produits pour tous, souvent disponibles sans ordonnance. Mais selon certains experts, ces produits ne sont pas toujours nécessaires. La routine d'hygiène intime peut varier d'une culture à une autre. Rendons-nous en République démocratique du Congo, où certaines femmes préfèrent utiliser des produits faits maison. Nathalie Sekabourou raconte.
Sylvie Kifare est une habituée de feuilles, des herbes et de plantes pour le nettoyage de sa partie intime. C'est depuis son enfance qu'elle les utilise.
J'utilise le gingembre, j'utilise les feuilles de tomate, j'utilise les feuilles de basil ainsi que les feuilles d'aloe vera. Ce sont les plantes que j'utilise pour nettoyer mes parties intimes. C'est ainsi que les corps de nos mamans restent toujours secs. Depuis mon enfance, depuis que je suis jeune, quand je grandissais, ma mère m'avait initié à ces pratiques. C'est pourquoi j'utilise ces feuilles, les feuilles des ancêtres.
Pour cette quadragénaire, cette pratique est considérée comme un acte sûr d'hygiène intime. Elle date de longtemps. Elle est donc ancestrale et culturelle.
Je n'ai pas peur puisque ce sont des choses anciennes. Nos arrière-parents les ont utilisées. C'est pourquoi nous aussi, de la nouvelle génération, avons continué ces méthodes, au-delà même des produits modernes. Personnellement, je les utiliserai toujours.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses. Ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Docteur Moukania est gynécologue. Il pointe le danger de ces pratiques et le risque d'infection qu'elles font courir celles qui les utilisent.
Il y a plusieurs dangers. C'est pour cela que nous, médecins, on ne conseille pas tellement cela parce que la pratique n'est pas souvent très, très assurée. Je prends l'exemple des écorces de feuilles, etc. Ce sont des choses qu'on introduit dans le vagin, mais qui peuvent amener les infections de l'extérieur dans le vagin. Alors, ce sont des choses qui, parfois, parce que ces feuilles, ces écorces sont des substances chimiques, on ne connaît pas toujours très bien quelle est leur répercussion sur la santé générale. Il y en a qui utilisent pas seulement des feuilles, des écorces ou même des...
Comment je peux...
Voilà, même des fonds d'eau. Il y en a même qui font des boulettes de ces feuilles-là. Bon, parfois, on a assisté à des problèmes de fissures.
Le gynécologue conseille donc aux femmes de ne rien introduire dans le vagin pour leur bain intime. Ce dernier s'auto-nettoie grâce à ses sécrétions.
Le docteur Maria Soufox est gynécologue à Princeton, dans le New Jersey, aux États-Unis. Elle nous en dit plus sur l'hygiène intime et partage quelques conseils.
Je pense que c'est bien d'avoir un gel douche ou du savon sur tout le corps, car il est nécessaire de se laver le corps, les aisselles, les pieds, des choses comme ça. Mais surtout, la partie génitale a besoin de très, très peu de savon, même si on croirait le contraire. Mais la raison en est que le vagin est essentiellement auto-nettoyant. L'écoulement vaginal, tout comme le mucus de notre nez ou la cire de nos oreilles, c'est juste un moyen pour le corps de se nettoyer. Si les odeurs vous dérangent dans ces endroits du corps, vous pouvez utiliser quelque chose comme rafraîchir l'équilibre de la propreté, qui est juste un insert d'un produit très naturel qui vous rend plus confiant et équilibre le pH. Vous n'avez pas besoin de faire des douches vaginales, c'est vraiment pas conseillé. Nous savons que 40% des femmes le font encore à cause des vieilles habitudes et de mauvais conseils, comme mettre des choses à nettoyer à l'intérieur. C'est une pratique très courante et populaire dans le monde entier. Mais des études médicales ont montré qu'ils ne vous gardent pas en meilleure santé ou plus propre. Vous ne faites que perturber la capacité naturelle du corps à se nettoyer. Donc, vous devez absolument éviter d'éliminer les odeurs avec des produits parfumés, car les produits parfumés contiennent généralement des irritants. Et de toute façon, de nombreuses femmes ou certaines femmes seront irritées. C'est mieux de couper au lieu de vous raser. C'est bien au moins dans la partie des poils pubiens. C'est probablement mieux parce que lorsque vous mettez un rasoir là-dessous, vous obtenez ce que les femmes appellent des brûlures ou de petits boutons rouges, et cela a tendance à causer de petites infections. Ce ne sont que de petites infections minuscules, donc si vous pouvez couper à la place, c'est mieux, et il en est de même pour les hommes.
Yvette Raphaël est directrice exécutive du plaidoyer pour la prévention du VIH en Afrique. Diagnostiquée du VIH en 2000 à un jeune âge, elle s'est engagée pour aider à lutter contre la maladie dans son pays, l'Afrique du Sud et au-delà. Elle partage son témoignage.
Tout à coup, j'ai commencé à perdre du poids et j'ai vu que ma physionomie changeait et je savais que quelque chose n'allait pas. Alors, je suis allée faire un test qui a révélé que j'avais le VIH. Et oui, c'était une nouvelle dévastatrice et je venais d'avoir un enfant dont je devais m'en occuper. En Afrique du Sud, à l'époque, c'était très difficile. Notre gouvernement refusait d'admettre le VIH et son mode de transmission. Il refusait également les traitements qui fonctionnaient. Donc pour moi, c'était très difficile. Cependant, trouver un groupe de soutien était la meilleure chose à faire. Donc quand je suis arrivée au groupe de soutien, j'avais besoin de parler. J'ai parlé à d'autres personnes vivant avec le VIH et nous nous sommes soutenus les uns les autres et j'ai commencé le traitement. Donc je prends 3 à 4 comprimés par jour et j'ai eu de la chance quand j'ai commencé mon traitement parce que je pouvais me permettre de payer mes propres médicaments. J'ai suivi un bon régime. Pour le moment, je ne suis qu'en deuxième phase. J'ai évidemment échoué à la première phase à cause de la durée. Après une quinzaine d'années, mon corps était tellement habitué et c'est ce que nous appelons la résistance. Mon corps a résisté aux médicaments que je prenais et j'ai suivi un régime différent. J'ai dit toujours que lorsque vous quittez votre établissement de santé après votre diagnostic, la toute première personne à qui vous parlez peut faire ou défaire votre façon de gérer le VIH. Et quand je suis sortie du bureau de cette infirmière et que je suis allée voir mon médecin, le tout premier médecin qui m'a traité, il m'a dit que rien n'a moins changé. Vous avez juste besoin de prendre soin de vous. Et ça m'a donné confiance. Donc, la mauvaise conception est de croire que vous êtes invincible juste à ce que cela vous arrive. Et je parle des personnes séronégatives. Alors, pour que les choses ne changent pas vraiment, je dis toujours aux gens de laisser le VIH s'intégrer dans leur style de vie. Ne laissez pas le VIH vous transformer. Il faut vous adapter à la stigmatisation et rester la même personne. Et c'est ce que je fais. Mon activisme consiste à lutter pour que les personnes vivant avec le VIH aient des médicaments. Je lutte également pour le développement de nouveaux médicaments anti-VIH en Afrique du Sud et aussi dans le monde. Et quand je dis je me bats avec ma plume, je me bats avec ma voix. Et c'est pour que les personnes vivant avec le VIH ne soient pas stigmatisées, qu'elles ne se sentent pas exclues.
Voici la fin de ce magazine hebdomadaire « Votre santé, votre avenir ».
La première partie de ce programme hebdomadaire était structurée autour de l'échographie. Nous avons eu un entretien avec Mme Sabrina Ngwe, échographe à l'hôpital Innova en Virginie, ici aux États-Unis. Dans la deuxième partie, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Lénore Moudou. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté par Nani Totalani. Continuez d'écouter Vidéo Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.